Alors, l'économie sociale et solidaire, bah, c'est tout le monde. Ça peut être tout le monde. C'est toutes les personnes, monsieur, madame, lambda, qui se disent que la société gagnerait à être un peu plus solidaire, un peu plus à l'écoute des uns et des autres, et qui se disent, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à rendre cette société plus humaine? Et donc, l'ESS, ça commence par ça, et ça se vit au quotidien comme ça. Et après, ce sont un certain nombre d'organisations, d'entreprises qui ont des formes très diverses, qui essaient de mettre en œuvre cette volonté de faire des choses qui servent vraiment les gens au quotidien.
Tu évoques économie sociale et solidaire. On va peut-être commencer par économie. Ah, c'est quel type d'activité ?
C'est tout type d'activité. L'économie, ce n'est pas simplement la grande industrie où il y a des échanges d'argent, où il y a des capitaux à n'en plus finir. Ce n'est pas le CAC 40. L'économie, c'est l'ensemble des gestes que l'on fait pour produire des biens et des services et les échanger. Donc ça se joue au quotidien, ça se joue dans la famille, ça se joue dans le quartier, ça se joue dans les associations, ça se joue dans des entreprises qui produisent, qui sont des entreprises de toutes activités, de la menuiserie, du bâtiment, de l'imprimerie, du service, de l'informatique. Il n'y a pas de secteur de l'ESS. L'ESS, c'est une façon de faire de l'économie, il n'y a pas un secteur particulier. On s'intéresse beaucoup actuellement à tout ce qui est, par exemple, alimentation, agriculture de proximité. Mais ça, ce sont des choses parce que c'est l'urgence aujourd'hui, c'est une des urgences aujourd'hui. On s'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est énergie. Comment faire de l'énergie à partir de l'électricité qui ne soit pas de l'électricité nucléaire, mais de l'électricité renouvelable, parce que il en va de l'avenir de notre planète. C'est tout ce qui touche aussi à une économie qui produit moins de déchets. Et donc comment on peut être sobre dans la production de biens et de services et comment on peut réutiliser, recycler les déchets pour en faire de nouveaux produits.
Économie sociale et solidaire, donc on a le sentiment qu'il y a un certain nombre de valeurs derrière. Alors selon toi, qu'est-ce qui est important ?
Il y a d'abord la solidarité, se dire qu'on n'est pas uniquement des consommateurs et que je prends tout ce que je peux et tant pis pour mon voisin. Donc c'est d'abord la solidarité et se dire qu'on fait partie d'un ensemble et qu'on doit nécessairement vivre ensemble, donc autant le faire de la meilleure façon possible. C'est ensuite même la démocratie. Une entreprise, ça ne peut pas être, ça ne peut plus être, de moins en moins, une entreprise avec un chef, un patron de droit divin, qui décide de tout. Je rencontrais l'autre jour un vieux copain qui a travaillé dans le textile à Tourcoing, qui disait: j'ai été embauché par monsieur, je ne sais plus du nom de son patron, c'était un grand patron du textile. Il disait, le matin, il disait bonjour à tout le monde. On était 500 dans l'atelier, il disait bonjour à tout le monde. Il dit, et j'ai été licencié par quelqu'un que je n'avais jamais vu, qui ne me connaissait pas, qui avait son bureau quelque part aux États-Unis. Bon, ça, ce type d'entreprise où les gens ne se connaissent plus, ça ne peut plus exister. Et donc la démocratie, faire que chacun a son mot à dire, parce que chacun a des compétences, a une connaissance de l'entreprise. Ça aussi, c'est une caractéristique de l'ESS. Ensuite, les entreprises, ça ne doit plus être des lieux où certains s'enrichissent sur le dos des autres. Une entreprise existe pour produire ensemble quelque chose qui est utile à la collectivité. Utile à tout le monde, en particulier à ceux qui en ont le plus besoin, aux plus démunis. Donc, c'est pas... Et donc, pour cette raison-là, il n'y a pas de raison que certains en profitent et s'enregistrent des autres. Chacun doit être rémunéré justement. Éventuellement, on peut admettre que certains soient rémunérés mieux que d'autres parce que le service est plus difficile, plus ingrat ou plus nécessaire. Mais il ne doit pas y avoir de pillage de la richesse par quelques-uns sur le dos de la majorité.
Alors, tu es très investi au sein de l'APES, hein, Acteur pour une économie solidaire, dont tu es le président depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce que c'est que l'APES ?
L'APES, c'est un réseau, donc c'est un ensemble d'acteurs. Donc, qu'est-ce que c'est un acteur ? Ça peut être des individus, On a des militants individuels qui se disent, moi, à ma place, je peux participer à changer l'économie, petitement, mais je prends ma part à ce changement. Il y a aussi des associations, qui sont des formes d'entreprises particulières, et puis des entreprises de tout statut, plutôt des coopératives souvent, parce que là, ça met vraiment en œuvre les principes de démocratie, de non-enrichissement individuel et de solidarité. Mais on peut avoir des entreprises avec des statuts différents pour X raisons. Et donc, on essaie tous ensemble de se coordonner et de faire avancer des thèmes qui nous paraissent particulièrement importants actuellement.
Alors justement, aujourd'hui, en 2019, de quoi est-ce qu'on discute à la PES ? Quelles sont les grandes thématiques qui font réfléchir les adhérentes et les adhérents ? Quelles sont les pratiques qu'on a envie de mettre en avant ? Quelles sont les questions qu'on se pose, y compris les échecs qu'on essuie ? Enfin, comment ça se passe dans le concret, les thèmes de réflexion, les pratiques ?
Alors, il y en a beaucoup. C'est vrai que on essaie beaucoup de choses. Et puis, de temps en temps, ça réussit, heureusement. Et puis de temps en temps, on patine, on ne débouche pas, et puis on rate, et puis on se plante, ça arrive aussi. Alors, je ne vais pas donner tous les sujets, mais peut-être deux ou trois. Le premier, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la transition écologique. Notre planète va très très mal, il faut se le dire et se le redire. Nous, on va peut-être pas avoir la fin de l'espèce humaine, mais mes enfants, mes petits-enfants, j'en suis pas sûr du tout. Et donc ça fait tout de même un peu peur de se dire que dans 50 ans, on risque d'aller au-devant de catastrophes mais majeures. Et donc si on n'y prend pas garde, si on ne fait pas attention à produire en étant plus sobre, en faisant plus attention aux ressources, en polluant moins, on va vraiment dans le mur. Et donc la question de la transition écologique, c'est quelque chose de central pour nous. Mais pour nous, c'est inséparable de ce qu'on appelle la transformation sociale, c'est-à-dire une société plus juste, plus sociale, plus équitable. C'est pas aux pauvres de faire des efforts pendant que certains s'enrichissent. Il faut que les efforts soient partagés et il nous faut profiter de cette nécessité de changement du fait du changement climatique, du fait des ressources limitées de la planète. Il faut en profiter pour reconstruire une planète plus solidaire, plus humaine. Et puis peut-être le troisième sujet qui tient vraiment à cœur de la pièce, c'est ce qu'on appelle les territoires. Nous vivons dans un monde qui est globalisé, où on sait le jour même ce qui s'est passé de l'autre côté de la planète. Mais nous devons apprendre à vivre là où nous sommes aussi, dans nos quartiers, dans nos villages, dans notre environnement de tous les jours. Et donc ça, c'est la notion de territoire. Et là, il faut que chacun puisse vivre bien, sans chercher midi à 14h. On doit avoir des services publics, on doit avoir accès à des biens, à des services, un peu partout en France. Et ça aussi, la dimension territoriale, l'appropriation des territoires par les citoyens, par les habitants, quelque chose d'extrêmement important pour nous.
Bonjour, Laure Tout le Monde, directrice adjointe de la Fabrique de l'Emploi. La Fabrique de l'Emploi, c'est une entreprise à but d'emploi qui travaille dans le cadre de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Cette expérimentation, elle a été portée d'abord par ATD Carmonde et d'autres membres de la société civile qui ont tâché d'expérimenter le fait de proposer un emploi à temps choisi aux personnes privées d'emploi pour développer des activités utiles au territoire, donc développer des activités qui n'étaient plus pourvues par le monde économique classique parce qu'elles ne trouvaient pas leur modèle économique. Elles ont donc expérimenté ça, puis on portait ce projet auprès de l'Assemblée nationale pour qu'une loi soit votée. Et ce qui s'est passé donc en février 2016 à l'unanimité par l'Assemblée nationale pour permettre à 10 territoires en France de tester le fait de proposer effectivement un emploi en CDI à temps choisi à toutes les personnes privées d'emploi volontaires. Comment ils ont obtenu cette loi ? Ils ont obtenu cette loi en affirmant d'une part que le travail ne manque pas, parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement il y avait beaucoup de choses qui n'étaient plus faites. Que l'argent ne manque pas, parce qu'aujourd'hui, financer la précarité, ça coûte très cher à la collectivité et à nous tous, citoyens français. Et qu'à côté de ça, les compétences ne manquent pas, puisqu'il y a plein de personnes privées d'emploi qui ne demandent que ça, de mettre à profit leurs compétences à la société. Comment ça se traduit ici sur la métropole européenne de Lille qui a porté le projet pour que la MEL soit habilitée? Ça se traduit par donc, un comité métropolitain, donc un groupe d'acteurs métropolitains et des groupes d'acteurs locaux, là notamment sur la ville de Loos et de Tourcoing, qui se sont réunis déjà pour refuser le chômage, pour dire qu'effectivement sur leur ville il y avait plein d'activités qu'il y avait à développer pour favoriser le mieux-être sur certains quartiers. Et donc il a été créé une entreprise à but d'emploi, la Fabrique de l'Emploi, en 2017, avec donc des premières embauches à partir du mois de juillet. Toutes les activités ont été réfléchies avec les personnes privées d'emploi, d'abord, avec un début de construction des activités, puis ensuite une embauche pour que chaque salarié se saisisse du développement de des activités, pour ensuite les mettre en œuvre. Donc concrètement, sur Loos, il y a aujourd'hui 90 salariés qui travaillent sur différents projets. Donc il y a une épicerie solidaire, il y a du maraîchage bio urbain avec une volonté aussi de soutenir l'agriculture locale, donc ça c'est en cours. Il y a une ressourcerie bois, donc qui travaille qu'à partir de matières recyclées ou enfin voilà, jetées. Une ressourcerie textile, une activité de restauration, donc plus en mode cantine de quartier et pourquoi pas de traiteur solidaire auprès de petites structures qui aimeraient créer des événements mais avec des denrées locales de saison en essayant de minimiser un maximum les déchets. Il y a des activités de soutien aux habitants, donc qui sont complémentaires de ce qui existe déjà chez des entreprises privées. C'est que nous, nos clients, c'est des clients qui ne peuvent pas se permettre de se payer des prestations de ménage, de travaux. Et voilà, et auprès de nous, elles peuvent trouver une réponse. À Tourcoing, on a également une recyclerie. Donc là, on vient soutenir les filières de recyclage, notamment sur les huiles alimentaires, les cartouches d'encre, et on sensibilise les habitants à ces problématiques. On a un magasin solidaire, donc un magasin de vêtements de seconde main, qu'on nettoie, qu'on retouche. Voilà, on leur fait une mise en beauté, on les revend. On a quoi d'autre encore ? Mais je crois que c'est à peu près tout, après toutes les activités, donc avec aujourd'hui une trentaine de salariés à Tourcoing et une volonté de continuer à contribuer à la résorption du chômage et sur ces quartiers et j'espère plus largement ensuite.
Alors ce que je voudrais, c'est peut-être poser une question sur justement la place de ces personnes, de ces femmes et de ces hommes qui étaient chômeurs de longue durée, qui maintenant sont investis dans la Fabrique de l'Emploi. J'ai envie de dire, donc toi tu es chef d'entreprise et eux c'est tes ouvriers, comment ça se passe un peu, quelle est leur place ?
Okay, bah leur place elle est entière, c'est-à-dire que nous on a une organisation très plate. Alors effectivement je suis directrice adjointe, moi j'accompagne le développement des projets, mais je le fais jamais seule en fait, à chaque fois c'est en équipe qu'on prend les décisions, qu'on décide de ce qu'on a envie de développer. Alors évidemment on se rappelle le sens de ce qu'on fait, on est inscrit dans l'économie sociale et solidaire, on a une volonté de développer tout nos activités dans le développement durable, donc ça demande quand même à s'acclimater à ces dimensions et puis à accepter d'être partie prenante de ça, mais au-delà de ça, tout est pensé avec eux, tout est décidé avec eux, les équipes s'autogèrent, pas simplement, mais en tout cas il y a une répartition des rôles, des responsabilités pour réussir à porter le projet, à organiser le travail, à atteindre les objectifs qu'on se donne. En tout cas c'est jamais nous qui décrétons seule la route, c'est toujours avec, avec les équipes. Et pour ça, on a une méthode de travail qui le permet. On a des espaces d'échange, donc des réunions d'équipe, des réunions de coordination qui permettent aussi aux équipes de communiquer entre elles et d'interagir dans les projets qu'elles développent. Donc voilà, c'est pas l'école blanc et l'école bleue.
Financièrement, en gros, ils ont un salaire qui, pour un temps plein, c'est autour du SMIC. C'est
le salaire au SMIC, effectivement. Donc ils sont en CDI, au SMIC et à temps choisi. Donc il y a beaucoup de nos salariés qui seront à temps plein, mais il y en a aussi quelques-uns qui souhaitent travailler 15 heures semaine et ça ne pose pas de problème. Certains souhaitent ne pas travailler le mercredi parce que ce n'est pas possible pour leur vie familiale. Ce n'est pas un problème non plus. Et après, sinon, sur le statut, en tout cas, ce qui est indiqué sur le contrat, ils sont salariés polyvalents. Donc, ils peuvent être amenés à découvrir d'autres activités, à être volontaires et être disponibles pour tout ce qui est à développer dans la structure. Voilà.
Alors toi, tu dirais que ça se passe comment? Autrement dit, comment est-ce que tu vois un petit peu leur évolution, leur état d'esprit, leur implication, peut-être leur joie, leurs échecs?
Leur implication, elle est certaine. Pas toujours évidente, mais parce que tous n'ont pas le même parcours, la même formation, la même appétence à ces choses-là. On est aussi dans un modèle où on leur demande tout le temps leur avis, ce qui dans une entreprise classique ne se passe pas toujours. Donc forcément, c'est déstabilisant. Mais néanmoins, justement, il y en a beaucoup qui développent beaucoup de compétences parce que là où on leur proposait des formations quand ils étaient chômeurs, où ils ne voyaient pas le sens, ils ne voyaient pas le bout, là, en étant au travail, ils se disent « mais ça, il faut absolument que je l'apprenne parce que ça va vraiment me servir dans mon travail ». Et du coup, d'eux-mêmes, ils se forment, ils s'entraident. Et je trouve que déjà, avec les 2 ans passés, il y en a beaucoup qui affirment avoir développé des compétences et ça se voit, quoi. Voilà. Après, le fait d'effectivement de travailler avec eux, de construire la route avec eux, ça prend plus de temps que si on le faisait juste nous-mêmes. Mais c'est le jeu et je pense qu'on ira plus loin comme ça.
Alors une toute dernière question. Bon, une trentaine de personnes à Tourcoing, un peu plus de 80 à Loos. Il y a d'autres perspectives maintenant, d'autres quartiers, d'autres villes?
Alors, il y a une deuxième vague d'expérimentation là, qui se dessine avec probablement une deuxième loi qui serait votée fin 2020 avec une volonté politique que 50 nouveaux territoires rejoignent l'expérimentation. Donc, on ne sait pas aujourd'hui si ce sera disparant ou plus rapide que ça. Néanmoins, en France, il y a beaucoup de villes qui se mobilisent et sur la Mel en particulier, je pense qu'il y a 6 villes qui sont très mobilisés et donc qui espèrent qu'ils sont en attente de cette seconde loi pour participer à cette expérimentation. Et au-delà de ça, nous, à la Fabrique de l'Emploi, donc aujourd'hui on est 125, on espère être peut-être 150, 160 d'ici fin 2019 et d'ici 2 ans, avec tout ce qu'on est en train de mettre en place, probablement 300.
Bonjour, je m'appelle Frédéric, je travaille à la Fabrique de l'Emploi, donc dans l'activité recyclerie qui se trouve au 141 rue de Lille à Tourcoing. Donc voilà, dans cette recyclerie, nous recyclons 4 matières principalement, donc l'huile alimentaire usagée en partenariat avec GECO, les cartouches d'encre d'imprimante en partenariat avec TAC, le triporteur à cartouches qui est une association sur Oisem. Nous recyclons aussi les métaux, donc ferreux ou non ferreux, et nous recyclons aussi les meubles que nous revendons ou... Pour les meubles qui nécessitent une petite rénovation, on les rénove et on les revend aussi. Et pour ce qu'on ne peut pas rénover, on envoie tout ça en écomobilier où la matière ou le bois est recyclé et on en fait autre chose. Comme ça, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de déchets. Alors notre premier objectif, c'est de sensibiliser les habitants. Donc, c'est vraiment chez les habitants que ça joue parce que sinon, il y a déjà des déchetteries qui sont en place. Voilà, donc on est là pour compléter un petit peu ce que fait la déchetterie. Donc il y a des personnes qui ne savent pas que certaines matières se recyclent, comme l'huile. Il y a encore pas mal de personnes qui jettent tout ça dans l'égout, dans les WC. Et nous, on vient déjà pour les informer. Et ensuite, pour récupérer leurs huiles ou les métaux, parfois il y a des personnes qui se trouvent au deuxième étage, troisième étage, qui n'ont pas la capacité de descendre leurs encombrants, que ce soit les métaux ou les meubles. Et là, on vient chez eux, on vient récupérer leurs encombrants, tout simplement. Donc voilà.
Est-ce que tu sais ce qu'ils deviennent ensuite ?
Oui, bien sûr, c'est recyclé. Alors nous, on fait déjà, par rapport aux meubles, par rapport aux métaux, on récupère de l'électroménager. Donc on va les démonter, on va trier le plastique, les circuits électriques. Les circuits électroniques, tout ce qui se trouve dans la machine, on va tout bien trier. Et ensuite, on va envoyer ça chaque matière dans la filière à laquelle elle correspond.
Alors, tu parlais de GECO, de TINC. Est-ce que tu as des contacts avec ces entreprises ?
Oui, avec GECO, on est en lien. On est en lien, par exemple, lorsqu'on fait un petit peu de com, parce que je m'occupe aussi de la com pour ce qu'on fait, donc sur Facebook ou sur d'autres dans nos événements. On touche parfois des commerçants qui aimeraient donner leurs huiles à notre association, et là on les envoie vers GECO, parce que c'est des commerçants qui sont hors de Tourcoing, qui ont besoin de ce service, et là je les envoie vers GECO. Alors GECO c'est notre partenaire pour l'huile alimentaire usagée, et il a dû créer son carburant pour pouvoir le vendre, parce qu'à la base c'est interdit en France de rouler avec de l'huile comme ça, non traitée. Donc j'ai quoi ? Alors je n'ai plus le nom du fondateur, désolé. Alors ils ont créé leurs huiles, leur biocarburant, et ils commencent déjà à fournir la métropole lilloise pour certains moyens de transport comme les bus, donc voilà. Alors je suis resté longtemps sans emploi au RSA, je suis resté 5 ou 6 ans, je ne compte même plus, donc voilà, très très longtemps. Après, dans cette situation, c'est pas évident d'aller démarcher, d'aller voir un employeur et lui dire j'aimerais trouver un travail. Et lorsque la question se pose, ça fait combien de temps que vous ne travaillez pas ? Là, lorsqu'on dit ça fait 4-5 ans, les gens sont choqués, c'est normal, parce que on ne peut pas se présenter comme ça, c'est toujours un handicap. Alors la Fabrique de l'Emploi m'a permis de retrouver un emploi, la confiance en moi pour aller démarcher, pour pouvoir travailler.
En fait, je suis couturière. C'est les gens qui nous ramènent des vêtements usagés déjà, qui n'ont plus besoin, qui nous les ramènent. Nous, on les lave, on les repasse et on les met en vente. Moi, je fais des retouches pour les gens du quartier. Ils ramènent des pantalons trop longs qu'on doit raccourcir. Et aussi, on fait de la création. Les gens nous ramènent leurs tissus et on réalise ce que la personne veut, le modèle qu'elle veut. Ça aussi, on le fait. Au départ, on était deux, et là, il y en a deux autres qui sont venus intégrer le groupe, et on est quatre maintenant. Ils ont mis des tracts à la maison, et il y avait une réunion. J'ai insisté à la réunion, et ils avaient expliqué ce qu'il fallait faire. Et en fait, pendant presque un an et demi, on allait dans les réunions. En fait, il fallait s'investir, et en fait, il fallait créer son projet. Et moi, comme j'étais dans le domaine de la confection, j'ai voulu créer ça. Moi, j'ai choisi à mi-temps, 20 heures par semaine. En fait, j'avais tout épuisé, le chômage, j'avais rien, en fait. Voilà. J'avais tout épuisé. Mes années de chômage, je les avais déjà usées. En fait, j'avais rien. Et maintenant, j'ai un salaire. Ça fait beaucoup de bien. moi, j'aime bien beaucoup la création, mais en fait, on n'a pas beaucoup le temps avec le travail qu'on dérobe. N'importe quoi, ce que le client veut, en fait. Autre chose, comme maintenant, il y a un entrepreneur qui est venu avec ses sacs de jute, et là on travaille pour lui. Ça fait que tout notre temps est pris par... Ah oui, ça marche très très bien.